Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et avec Maxime Dupuis à mes côtés, nous allons débriefer la convaincante, la brillante victoire de l'équipe de France face au Danemark. Maxime est déjà mort de rire.
On dirait que tu commentes le match, tu bah, commentes l'intro.
Un petit peu, elle nous a fait plaisir quand même cette victoire.
Elle nous a fait plaisir parce que déjà c'est une victoire et nous on marche au résultat mais on marche aussi à l'affect et c'était quand même une belle équipe de France qui a... réussi un match qui n'était pas évident. Alors je pense que le Danemark n'a peut-être pas été non plus le Danemark qu'on attendait, ceci depuis la Coupe du Monde, mais franchement on ne va pas bouder notre plaisir et cette équipe de France a fait un très grand match.
On va débriefer cette rencontre autour de trois thèmes, de trois axes. Le premier thème, on va se demander qui est l'homme du match.
Ouais.
Et ça c'est pas si évident que ça, il y a évidemment deux individualités qui sortent du lot, on vous en dit pas plus.
On va parler ensuite de Didier Deschamps parce que lui, c'est aussi peut-être l'autre homme du match sur le banc. Depuis le début de la Coupe du Monde, on n'en parle pas beaucoup, mais force est de constater qu'il fait le boulot et plutôt bien.
Et on terminera avec cette question. Est-ce que la France a découvert son 11, celui qui lui fera décrocher sa troisième étoile? On s'enflamme un petit peu, évidemment, on est là pour ça. Non, mais est-ce que l'équipe de France a enfin trouvé son équipe type, finalement, face au Danemark?
Et si c'est ça, bon, j'en reparlerai après, mais
calme-toi.
Ça dit encore une fois de pas de l'inutilité, c'est pas ça, mais des deux ans qui précèdent une Coupe du Monde de l'année, parce que là, c'est vraiment une équipe.
Le meilleur exemple, c'est le Danemark, parce que tu te fais taper deux fois et tu arrives en Coupe du Monde et tu les domines, tu les concasses.
On a bien concassé et maintenant, on va discuter et on va parler évidemment de ce match. C'est notre rubrique, vous en avez pris l'habitude après les matchs, les notes débriefées, mais cette fois, on va les tourner un peu. C'est pas tellement une discussion, puisqu'on est à peu près d'accord sur les notes, mais les deux joueurs que tu as le mieux noté, Martin, sont Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, pour des raisons différentes. Les deux ont eu la note de 8, mais on s'est dit quand même que ce serait bien d'essayer de les départager. Alors Martin, la question est simple, pour toi, qui est l'homme de ce France-Danemark?
Celui qui a fait basculer la rencontre. Donc, évidemment, Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Oui, pendant une heure, on ne le voit pas. Ou alors, quand on le voit, ce n'est pas terrible. C'est-à-dire qu'il ne fait que des mauvais choix. Il force un petit peu. Mais on en a si souvent parlé ici. De toute façon, Didier Deschamps l'a toujours dit, je lui donne la liberté. Donc, globalement, il fait à peu près ce qu'il veut sur le terrain. Mais il le rend tellement à Didier Deschamps dans ce match-là. Puisque le premier but, il est fantastique. Alors, c'est 75% Mbappé, 25% Hernandez quand même, parce que la complicité entre les deux, ça c'est un vrai nouveau point fort de l'équipe de France quand même.
Ouais.
Hernandez, Mbappé, c'est quand même assez incroyable. Et puis, il libère les Bleus sur, pour le coup, un vrai but d'avant-centre, un but à la Giroud. Il prouve qu'il sait tout faire, mais surtout il marque deux buts. Il en a à 3 buts, c'est déjà le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et on sait que l'équipe de France, quoi qu'il se passe désormais, ça passera par Mbappé. Et encore une fois, de toute façon, s'il n'y avait pas eu Mbappé, ça se serait... pas si bien passé que ça. Donc Mbappé pour moi est incontestablement, peut-être pas parce que tu vas parler de Griezmann et je vais être beaucoup raccord avec toi, mais c'est celui qui fait basculer la rencontre et c'est ce qu'on lui demande finalement.
Alors je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de choses qui passeront par Mbappé, mais j'ai l'impression que ça se terminera surtout par Mbappé et que ce qui passera au maximum ce sera évidemment par Antoine Griezmann, parce que pour moi c'est vraiment lui l'homme du match. Si l'équipe de France a trouvé une équipe et un équilibre, c'est vraiment lui, c'est le balancier, c'est-à-dire que cette position hybride qui n'est, je le répète, pas milieu relayeur et pas numéro 10, même si aujourd'hui il était un peu plus haut, voilà, il a fait un très grand match, encore une fois, parce que dans le jeu défensif, l'abnégation, il est là, il bouche les trous, et puis évidemment, la vista, il y a des renversements de jeu à une touche de balle qu'il fait sur des ballons aériens qui sont exceptionnels, mais vraiment, je pèse mes mots. Cette ouverture pour Mbappé aussi, en première mi-temps, quand il fait sa course un peu, j'allais dire, argentine, et qu'il est repris par Christensen, elle est lumineuse. Alors, elle est beaucoup aussi pour Mbappé, parce que s'il n'a pas cette pointe de vitesse, je pense que le ballon
n'arrive
pas.
Débat. C'est tout notre débat, finalement.
Mais en tout cas, la passe est fantastique. Évidemment, il y a 7 passes décisives, et moi, je suis vraiment heureux de revoir un Griezmann à ce niveau-là. Didier Deschamps l'a dit après le match, oui, il marquera moins, Voilà, il n'a plus marqué depuis 11 matchs en équipe de France, mais on s'en fout. Il est vraiment formidable dans ce qu'il apporte à cette
équipe. C'est vrai qu'on s'en fout ce soir. C'était moins clair, moins évident sur, voilà, depuis un an. On se demandait un petit peu à quoi servait Griezmann. Est-ce qu'il était toujours aussi important pour cette équipe de France ? Quand Karim Benzema est arrivé, on s'est même dit à un moment donné, peut-être que pour le bien de l'équipe et pour l'équipe, l'équilibre de l'équipe, bah, il faudra définitivement sacrifier Griezmann. Enfin, ce qu'il faut entendre par là, c'est peut-être le faire démarrer sur le banc, parce qu'en plus en club, etc. Et aujourd'hui, il nous a effectivement montré, en fait, j'ai l'impression que c'est un an de réflexion, un an de test, un an, et pour en arriver là, ça tombe très bien, parce que généralement, il ne démarre pas si bien ses compétitions, ouais. Et là, il est déjà au top. Mais encore une fois, pour moi, si on doit déterminer qui a été le plus important des deux, et qui est le plus important des deux depuis le début du tournoi, et qui le sera jusqu'à la fin du tournoi, je pense que ça sera quand même Kylian Mbappé. Les Bleus ne s'en sortiront pas grâce à un grand Mbappé. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir avec un Griezmann moyen. Je ne pense pas qu'ils puissent s'en sortir avec un Mbappé moyen ou un Mbappé, tout du moins, bah, qui ne marque pas ou qui n'est pas décisif. 3 buts, une passe décisive. Avec Giroud, une entente voilà, fantastique. Alors, ça a moins été le cas aujourd'hui, ouais. Mais ça a été le cas lors du premier match. Je veux dire, c'est celui qui débloque tout depuis le début de cette rencontre. On sait que il a fait cette Coupe du Monde un rendez-vous pour succéder à Ronaldo et Messi, qui eux sont plutôt en bout de course. Le successeur, si c'est lui, eh ben, il doit le montrer pendant cette Coupe du Monde, et c'est ce qu'il montre depuis le début.
Ouais, alors, je pense que l'équipe de France ne s'en sortira pas avec un Mbappé moyen, mais je pense qu'elle ne s'en sortirait pas plus avec un Griezmann moyen. Parce que le milieu de terrain, il fonctionne. Tchouaméni a été plutôt mieux sur la fin du match que ce qu'on a vu depuis le début. Période, ouais. Rabiot fait le job, mais je pense que s'il n'y a pas Griezmann dans ce milieu de terrain-là, j'ai des doutes, parce qu'encore une fois, il est vraiment au four et au moulin. Et comme tu l'as dit, ce qui est important, c'est que depuis qu'il est avec l'équipe de France, c'est la première fois qu'il globalement réussit ses deux premiers matchs en compétition. D'habitude, il met plus de temps à démarrer. Là, sur les deux premiers matchs, il est là. L'année dernière, il a vu l'Allemagne qui était plutôt bon, mais surtout dans le replacement. Là, il est vraiment bon surtout, donc vraiment... Je pense qu'on a vraiment quelque chose de bien. Et pour revenir sur ce que tu disais, sur le fait qu'on retrouve Griezmann aujourd'hui, je pense que le fait que Benzema ne soit pas là joue évidemment. Alors, je ne suis pas là en train de parler de l'entente, etc. Non, sur le terrain, tout simplement, je pense que ça lui donne plus de liberté. Il risque moins de marcher sur les pieds de Benzema parce que les deux pouvaient se retrouver dans des
mêmes
positions.
Je pense que Giroud lui convient mieux.
Giroud lui convient mieux, et ça, on le sait depuis 2016. Donc voilà, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de le retrouver au coup de pied arrêté tout le temps. Et
ça, c'est la grande obsession de Maxime.
Et je tiens à dire que c'est aussi une qualité, quelque chose à mettre au profit de Mbappé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, forcément. Donc Mbappé aussi, c'est de l'intelligence de mettre de l'eau dans son vin là-dessus, de se dire, bon, ça sert peut-être à rien que j'aille tirer tous les corners, je ne les tire pas bien, de toute façon. L'Euro l'année dernière, c'était pas bien. Là, c'est pas mieux parti. Il y a quand même un type qui sait à peu près bien les tirer, donc autant lui laisser. On verra pour les pénaltys, je ne sais pas si on en est là. Mais en tout cas, c'est plutôt bien. Et je trouve que là, on est sur des bases quand même d'une entente qui est assez formidable pour l'équipe de France. Parce qu'avoir deux joueurs avec ces types de qualités, c'est-à-dire Mbappé qui est un soliste de génie, et de l'autre côté qui est un chef d'orchestre comme Griezmann.
Et avec un Giroud à la disposition des deux.
Exactement, bah, on ne peut pas rêver beaucoup mieux. Et on en reparlera sûrement dans les autres émissions. Évidemment, Ousmane Dembélé qui a aussi fait notamment une première mi-temps assez formidable dans l'utilisation du ballon.
Est-ce que tu as envie de débriefer une autre note ou on passe au deuxième sujet ? Peut-être la note de Rabiot.
Note de Rabiot, ouais, on n'était pas trop d'accord. Ouais. Moi, j'ai bien aimé son match. Alors, ce n'est pas le meilleur, mais j'ai trouvé que dans la lignée du premier match, il avait fait quand même le job.
Moi aussi, attention. Mais...
Et qu'il méritait au moins les 5,5. Allez, un petit 5,5, je sais plus, tu l'as mis 5, je crois.
5.
Voilà. Bon, hey, ça ne joue pas à des masses.
Ouais, mais pour moi, on est obligé de le sanctionner pour le but encaissé par la France. Toi. J'aime les sanctions. Puis moi, je suis comme ça. Moi, je suis un homme qui sanctionne, de toute façon. Et non, mais le sanctionner parce que il est déjà fautif sur l'action qui amène le corner où il oublie son joueur. Et il oublie quand même Christensen. Enfin, il est complètement dilettante sur ce marquage-là. Ça coûte un but. Ça aurait pu coûter 2 points. Ça aurait pu coûter la qualif, ou en tout cas, la qualif dès aujourd'hui pour l'équipe de France.
Ça me semblait difficile de lui mettre plus que 5.
Je suis en partie d'accord avec toi.
Mais oui, mais à côté de ça, c'est un très bon match.
Ouais.
Sur le marquage, ce que j'ai envie de demander aussi, c'est comment les Bleus n'ont pas appris. Alors, évidemment, quand quelqu'un a une spécificité, Mbappé, on sait, vous savez, comme sa spéciale premier poteau, on sait qu'il va le faire, et pourtant ça marche. Là, les Danois, c'est pas faux d'avoir été prévenus. Souvenez-vous du match de septembre où il y avait eu 36 corners qui étaient arrivés sur la tête de Delaney et à chaque fois ça passait. Là, ils ont fait la même un peu avec une déviation. Et surtout, à la rigueur, ce que je me demande, c'est pourquoi Rabiot est sur Christensen. Ok, Rabiot est grand, mais.
Il est bon de la tête quand même.
Ouais, enfin, c'est pas. Enfin, tête défensive, moi, c'est pas ce que j'aurais fait. Mais voilà, mais encore une fois, je suis pas sélectionneur et. Sinon, ça.
Ah, sinon, ça serait quand
ça
même.
Serait. Mais est-ce que ça a été le joueur le plus dur à noter, Martin ?
Ça a été le joueur le plus dur à noter, oui. Parce que c'est le seul où j'ai eu une grosse hésitation. Pour le reste, c'était assez limpide. Dembélé 7, Tchouaméni 6, parce qu'il a très bien terminé. Koundé 6, parce que je trouve qu'il a très bien remplacé Pavard, mais il est passé à deux doigts du carton rouge quand même. Ouais. Non, globalement c'était assez clair.
C'est un 6 qui aurait pu se transformer en 3.
C'est un 6 qui aurait pu se transformer en 3. Si on avait été dans une Coupe du Monde où l'arbitrage
était sévère,
mais même pas sévère, était juste normal. Koundé n'aurait pas terminé cette rencontre, ça c'est une certitude. On passe au deuxième sujet, Maxime.
On passe au deuxième sujet et on va parler de Didier Deschamps qui est l'autre gagnant parce que là maintenant on a l'impression que comme d'habitude la victoire efface un peu tout, que tout se passe comme sur des roulettes. Or, il a toujours l'ombre de Zidane qui est un tout petit peu moins présente là après deux matchs. Évidemment, ça ne fait que deux matchs et s'il n'en gagnait plus un d'ici la fin de la Coupe du Monde, l'ombre, elle ne sera plus une ombre, ça sera vraiment une présence. Mais n'empêche que Deschamps a réussi au moins déjà la première partie de son pari, c'est-à-dire qualifier les Bleus après deux matchs, ce qu'il fait toujours depuis qu'il est là à la tête des Bleus en Coupe du Monde.
Moi, pour moi, son principal point fort est là où j'ai envie de saluer ses choix. C'est qu'il a mis en place des hommes sur lesquels on avait des énormes doutes et qui finalement se révèlent pendant cette Coupe du Monde. Alors, je pense à Upamecano, qui n'était quand même... Alors, pour moi, c'était le 127e choix en défense centrale, ou du moins le dernier, vu ce qu'il avait montré jusqu'au début du tournoi. Lui, il y a toujours cru. Déjà, j'ai trouvé ça culotté de le sélectionner, de le mettre dans la liste, vu ce qu'il avait fait en équipe de France. Mais alors, le titulariser, voilà, mettre une foi inébranlable dans ce joueur-là, ouais, franchement, chapeau. Pareil pour Koundé, qui l'a remis en arrière-droit. Alors, ça demandera confirmation, parce que Upamecano a confirmé. Voilà, donc on demandera la même confirmation pour Koundé. Je trouve que là aussi, chapeau. Et puis ce système ultra-offensif, avec un Griezmann qui recule un peu, qui se met dans le milieu relayeur, ça aussi, il fallait quand même le tenter et l'oser, alors que ça n'avait jamais été finalement expérimenté avant le début de cette Coupe du Monde. Là, je trouve qu'on a quand même des choix forts, que cette équipe allait marquée par des revirements de Didier Deschamps, si ça s'était mal terminé, ce qu'on aurait appelé du bricolage. Et là, vu que ça se termine bien, on appelle ça du génie.
Mais non, mais on passe du ce dont on avait parlé, de renoncement à du revirement. Et ça fonctionne très bien, comme tu l'as dit, parce que les paris qu'il a pris, pour l'instant, ils sont payants. Alors, on pourrait dire il a de la chance, ou bah, oui et non, parce que...
Pas de la chance, vu ce qu'il s'est pris à travers la tronche déjà.
Le pari Upamecano, c'est quand même, encore une fois, là, ça paraît pas mal. Encore une fois, il fait son match, mais... Enfin, souvenez-vous de ces 7 premières sélections, il faut le lancer en Coupe du Monde, il faut essayer. C'était pas gagné, voilà. Et c'est comme ça pour tout. Alors, Rabiot, c'est à plus long terme, parce qu'il était revenu il y a bien longtemps, mais c'est pareil, là, il est installé en titulaire. Ça fonctionne. Il faut quand même se rappeler aussi que Pogba et Kanté ne sont pas là. Rappelez-vous, Pogba n'est pas là dans cette équipe au milieu de terrain. Et ce qui est presque... Ce que j'ai envie de lui demander, c'est pourquoi il s'est entêté avec ce 3-5-2, alors que finalement, la solution...
Elle était sous son nez.
Elle était sous son nez avec Griezmann, voilà. C'est-à-dire que si le problème, c'était de mettre en musique ce trio d'attaque ou ce que tu as maintenant, il suffisait un peu de faire reculer Griezmann et lui n'aurait, je pense, rien dit. Parce qu'encore une fois, il l'a redit Didier Deschamps tout à l'heure en conférence de presse, ce n'est pas un sacrifice pour Griezmann. Il aime ça. Vous n'êtes pas en train de demander à Mbappé de jouer milieu défensif. Là. Non, Griezmann, il aime ça. Il prend du plaisir dans le fait d'aller au charbon. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a envie de se demander pourquoi n'a-t-il pas testé ça plus tôt. Il s'est entêté pendant des mois sur un 3-5-2 pour arriver à ça. Alors peut-être que l'absence de Benzema change des choses aussi, j'en suis à peu près persuadé. Mais n'empêche que voilà, c'est à mettre à son crédit. Je pense que là, il boit du petit lait parce que les Bleus, encore une fois, sont qualifiés.
Et
qu'il a repris la main.
Il a repris la main. Et il y a autre chose que je veux mettre à son crédit, c'est effectivement ce groupe, cette force collective où on sent que les mecs sont tous à leur place et ça leur va. Les remplaçants, il n'y a aucun souci. Les titulaires et même ceux qu'on n'attendait pas, ils assument ça sans aucun problème, et qu'une nouvelle fois, bah, y a un 11 qui se dégage, et que finalement, voilà, les joueurs nous le disent tout le temps, de toute façon, dans chaque compétition, c'est comme ça, c'est le groupe V bien, etc. Je pense, Maxime, qu'en 2010, ça devait être la même chose avant le début bien. De la Coupe du Monde. Donc,
même pendant, il vivait bien.
Voilà, donc c'est quand même des déclarations qu'il faut prendre avec des pincettes,
mais
force est de constater qu'on voit même dans les célébrations de but, même dans tout ça, ouais. On sent qu'il y a un truc qui se dégage. Alors, je ne sais pas si ça les mènera comme en 2018, parce que ça dépend tellement de circonstances qu'on ne maîtrise pas toujours. Mais en tout cas, ce début de compétition, voilà, pour moi, il y a un fondement, il y a quelque chose qui s'est passé.
Après les
et
matchs,
c'est grâce à Deschamps, évidemment.
Ouais. Et après les matchs, on les sent vraiment sincèrement heureux, tous. Et j'ai l'impression qu'à chaque match, l'Australie ou même le Danemark, c'est... Je ne vais pas dire qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais vraiment très heureux. Ils vont fêter ça comme si c'était des victoires. Alors évidemment, ça fait plaisir une qualif. Mais quand on est champion du monde, une qualif, ce n'est pas non plus un accomplissement absolu.
Mais je pense que tous les pépins qu'il y a eu, ça a soudé le groupe. Ouais, mais ça, j'en suis persuadé.
Et tu le dis justement sur la force de Deschamps, c'est qu'il sait construire un groupe. Voilà. On est toujours en train de dire pourquoi il a pris lui, pourquoi il n'a pas pris lui, pourquoi il a pris lui, pourquoi il n'a pas pris lui. Parce que, encore une fois, il y a toujours cet argument du comportement du joueur, comment il va être. Et c'est hyper important parce que prenez un type comme Matteo Guendouzi, par exemple. A priori, il sait qu'il va. Ah, il a peut-être une chance de jouer contre la Tunisie.
Oui.
Mais dans l'absolu, sa Coupe du Monde. Ça va être sur le banc, et voire peut-être même pas rentrer, hormis sur un match des coiffeurs. Et là, déjà, on voit déjà une troupe de remplaçants qui sortent du lot aussi. Donc les autres savent qu'ils ne vont pas beaucoup jouer. Donc là, il ne faut pas se tromper dans la construction. Il ne faut pas avoir le type toxique qui va dire bah, « moi, je suis là pour rester sur le banc ». Non. Et ça, Didier Deschamps, pour le coup, il sait le faire. On l'a vu par le passé, hors des compétitions, pendant les compétitions. S'il y a un truc sur lequel il se trompe rarement, c'est vraiment sur ça et les caractères des joueurs qu'il emmène avec lui.
Oui, et moi, je pense que là, il y a quelque chose qui s'est créé, qui a une. Mais ils en parlent tous. Hein. En fin de match, là, en zone mixte, ils parlaient de force collective, d'être tous à l'unisson, etc. Moi, je pense que c'est pas fin. Et effectivement, le grand architecte de tout ça, c'est Didier Deschamps. Je pense que les coups du sort, comme je disais tout à l'heure, ont solidifié les liens, que ceux qui sont arrivés ont très conscience de leur place et qu'ils sont heureux d'être là. Parce qu'ils savent ce qu'ils doivent aussi à leur destin. Ce groupe-là me semble en tout cas sain.
Ouais, et puis il y a quelque chose qui va l'aider évidemment, comme à chaque fois, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il se qualifie au bout de deux matchs, c'est qu'il va donner beaucoup de temps de jeu à des joueurs qui n'auraient pas eu si l'équipe de France n'était pas qualifiée. C'est le fameux match des coiffeurs, où finalement ce match-là, pour les joueurs, c'est aussi leur chance. Alors en 2018, ça n'a porté chance à personne. Et souvent, c'est un leurre parce qu'il est très difficile de changer les choses. Mais n'empêche que les mecs qui vont jouer contre la Tunisie vont se dire « bon, qui sait ?» voilà. Ou au moins me faire grimper un peu dans la hiérarchie. Et ça, c'est bon pour l'émulation d'un groupe. Et après, si les types se ratent comme en 2018, souvenez-vous, après le premier tour, ils commençaient à organiser dans une chambre des meetings avec juste les titulaires. Alors là, vous pouvez vous dire « ah oui, mais on est en train de scinder le groupe en deux ». Oui, mais non, parce qu'on vous a donné votre chance, vous n'avez pas été là. Maintenant, bah, c'est une aventure collective. Essayez de pousser les titulaires pour aller au bout. Et ça, Didier Deschamps, il est très bon. C'est un jeu de balancier qu'il maîtrise très, très bien.
Et justement, on va terminer cette émission en se posant la question du 11. Est-ce que cette victoire face au Danemark scelle le 11, l'équipe de départ, l'équipe type de Didier Deschamps? Alors, je dirais jusqu'à la fin de la compétition. Oui, c'est un peu cavalier de dire ça, mais en tout cas jusqu'à la fin de leur compétition.
Oui.
Est-ce que Didier Deschamps a trouvé son 11 type ce soir à Doha, Maxime?
Bah oui, oui, oui. Alors,
merci Maxime, rendez-vous demain.
Que c'est toujours l'analyse du moment, mais là c'est très compliqué d'imaginer un huitième de finale. Qui vous sortez dans cette équipe? Voilà. Je ne vois pas comment et surtout pourquoi en défense. Ça a l'air assez clair. Les 4 de derrière, a priori, c'est bon. Il y aura toujours Koundé, Pavard. On en parlera demain. On vous fera le 11 de départ pour nous contre la Tunisie. Moi, je pense que Pavard va jouer. Et hormis s'il fait un match XXL, en plus, il y a le carton de Koundé.
C'est sûr.
Je pense qu'on reverra Koundé. Le milieu de terrain, Martin, je ne vois pas pourquoi ça changerait.
Je ne vois pas pourquoi ça changerait non plus. Fofana est a priori le quatrième larron. Ouais. Mais c'est vrai qu'il semble loin. Déjà avant cette Coupe du Monde, il semblait loin derrière Rabiot et Tchouaméni. Rabiot, il a grossi d'un coup dans cette équipe de France. Tchouaméni, il a commencé sa Coupe du Monde lors de la seconde période, mais ça a été spectaculaire. Griezmann, il est évidemment intouchable. Donc, effectivement, dans ce milieu de terrain, je ne vois pas qui tu peux bouger. Dans ce système, je ne vois pas non plus pourquoi ça bougerait.
Ouais.
Donc, au final, et en attaque...
Et puis, le seul à la rigueur qui était entre deux, c'est Dembélé. Enfin, moi, là, j'ai vraiment pas envie de le sortir.
C'est vrai que là où la distance est la moins longue entre le titulaire et le remplaçant, c'est peut-être entre Dembélé et Coman. Coman qui fait une bonne rentrée, puisqu'il est décisif quand même sur le second but français. Mais Dembélé a fait tellement de différence et tellement de bons choix. Et qu'effectivement, enfin là, il a gagné ses galons titulaires pour la fin de la compétition.
Et puis, il y a quelque chose de drôle quand on les voit, les deux ailiers, entre guillemets, c'est que Dembélé est un ailier qui repique et Coman est plutôt un ailier qui déborde. Mmh. Donc, on a deux joueurs un peu différents, ça donne d'autres solutions. Mais je pense que l'équipe de France a plus besoin d'un joueur aujourd'hui comme Dembélé qui va repiquer, apporter quelque chose dans l'axe. Et il y a autre chose qui est important, tu disais le système, c'est que le modèle de 2018, il faut le 98 aussi au bout d'un moment, c'est d'avoir une équipe type qui tient la route, c'était le Pérou. Cette équipe qui va aller au bout, à part en quart où Tolisso joue parce que Matuidi est suspendu. Mais après, on ne change pas. Ce qu'a fait Didier Deschamps en 2021, de s'adapter, alors il y avait les blessures, mais n'empêche que ce fameux miroir contre la Suisse, je ne comprends toujours pas.
Non, il sort l'anglais du frigo. Oui.
Ouais, une équipe comme l'équipe de France... Bah, elle n'a pas à s'adapter, tout simplement. Elle n'a pas à s'adapter. Elle est avec son 11, elle a ses forces. Enfin, je veux dire, quand vous prenez les joueurs un par un, quand vous prenez la force collective de cette équipe, elle n'a pas lieu de s'adapter. Alors, il peut y avoir des petits ajustements de tactique, mais vous ne pouvez pas dire demain, bah, au milieu de terrain, bon, bah, là, je vais sortir Rabiot, je vais mettre Fofana, parce qu'on rencontre telle équipe qui aura cette force au milieu de terrain. Non, non, surtout pas. Là, honnêtement, ça marche bien comme ça. Et encore une fois, je pense que ça joue aussi dans l'inconscient de l'adversaire de dire, oh là là, ça y est, c'est en partie comme en 14. Ils ont une équipe qui tient la route avec un super Griezmann, un Mbappé qui fait peur au monde entier. Donc là, surtout pas changer tant que ça marche comme ça.
En fait, les deux doutes qu'on pouvait avoir, c'était sur Upamecano, effectivement. Mais Upamecano, bah, c'est réglé pour moi. Pour moi, c'est réglé jusqu'à la fin de la compétition parce que là, plus le tournoi avance, plus il grossit. Donc voilà.
Ouais. Ah oui, là...
et sur Koundé Pavard, où pour moi, c'est peut-être moins net aussi. Koundé, je demande quand même à revoir, même s'il a été très bon. En fait, le meilleur argument pour Koundé, c'est Dembélé. Ouais. C'est parce que ces deux-là, tu sens qu'ils s'entendent bien, qu'ils ont créé un truc au FC Barcelone, et donc qu'ils créent un truc automatiquement pendant cette Coupe du Monde. Donc, Pavard, ça a été très compliqué, et Deschamps l'a reconnu d'ailleurs en conférence de presse. Aujourd'hui, j'ai l'impression, tu l'as dit, hein, en 2018, ils ont gagné la Coupe du Monde à 11, ou quasiment. Hein, et là, j'ai l'impression qu'ils vont partir à l'assaut des 8e. Parce qu'effectivement, la Tunisie, ce sera un match particulier, mais je pense qu'ils partiront à l'assaut des 8e à 11 aussi. Ouais. Et que ce soir, il y a un trou qui s'est creusé entre les 11 titulaires et l'équipe d'après, même si Thuram est rentré assez tôt, même si, voilà, il n'y a pas eu non plus au niveau du coaching un effet immédiat. Donc, moi, ça me semble clair, au moins aussi clair qu'en 2018.
Ouais, et regardez les mouvements, si vous voulez revoir le match. Regardez les mouvements entre Dembélé et Koundé. Koundé, qui est un arrière antilatéral, qui peut aussi rentrer. C'est-à-dire que les deux s'entendent bien, ils ne se sont pas marchés. Alors, ça va moins dédoubler que ce qu'on peut imaginer dans un système classique d'ailier arrière-latéral, mais ça apporte quelque chose, ça solidifie aussi le milieu de terrain. Donc, franchement, il y a zéro raison de changer ce soir, déjà. Après, la Tunisie, ça m'étonnerait aussi. Donc, le huitième de finale, Didier Deschamps n'est même plus obligé de faire les huis clos ou de les cacher. A priori, on peut déjà faire les compos probables.
Exactement. Et on terminera juste avec Varane, qui en plus a l'air assez fiable physiquement. Ouais. Donc tout va bien. Bah, merci Maxime pour ce débrief.
Merci Martin.
Voilà, on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Nous non plus, on ne change pas notre équipe type. Ouais. A priori. Là, on n'est que deux, donc en même temps. Même si tu as une petite alerte dans la gorge, tu m'as dit.
Ah, petite alerte dans la gorge.
Petite alerte tout net.
Le match des coiffeurs tombe plutôt bien.
Ouais, parce que pas sûr que Maxime termine la compétition là.
Ouais, c'est peut-être la dernière.
C'est peut-être la dernière. J'espère que vous en avez bien profité parce que peut-être qu'il ne sera pas là demain. J'espère qu'il se réveillera quand même.
Bah là, ça fera une émission spéciale. Hein.
Ouais, je pense.
Bon, quand même.
Hein. Je suis même pas sûr que les gens s'en rendraient compte, tu vois.
Bah bon,
on continuera de vivre notre vie. Hein.
Écoute, hein.
Un de plus, un
c'est
de
ça, moins. The show must go on.
On serait bien emmerdé. T'imagines si ça arrive vraiment. Bref, non, on va pas te porter la guignée. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Merci à Anne aux manettes, merci à Quentin au visuel. Et à demain.
Salut.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.